magazine des Nations Unies.
Bonjour, bienvenue dans ce magazine. Voici les principaux titres. La MONUSCO regrette la mort de Morgan et aurait souhaité qu'il soit vivant pour qu'il réponde devant la justice. Le décès de l'ancien chef de guerre le 14 avril dernier a alimenté les commentaires la semaine dernière. Quelles ont été les circonstances de ce décès? La réponse à ces questions posées au cours de la conférence des Nations Unies mercredi dernier dans l'actualité de la semaine. Le parc marin des mangroves du Bas-Congo sera bientôt viable du point de vue socio-économique et environnemental. Un projet visant une gestion participative, gouvernement FAO, a été lancé le 11 avril dernier à Mwanda. Le décryptage de ce projet, ce sera avec Serge Tissot, représentant adjoint de la FAO RDC. Quelle stratégie adopter sur le plan sécuritaire, humanitaire et politique pour les pays limitrophes de la République centrafricaine afin de gérer les flux des réfugiés centrafricains sur leur sol? C'est l'objectif de la mission du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, au Tchad, au Cameroun et dans les deux Congos. Le magazine des Nations Unies reçoit Abou Moussa comme invité. Il répondra à cette question.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Dans quelles circonstances a été tué le 14 avril dernier le chef du groupe Mai Mai Simba, Paul Sadala, alias Morgan? Et quelle lecture la MONUSCO se fait de ce décès et de ses conséquences sur la suite du processus de désarmement des groupes armés? Les préoccupations ont été au centre de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Honoré Missenga Kalala pour le reportage.
La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC regrette la mort du seigneur de guerre Morgan. Charles Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole intérimaire de la MONUSCO, l'a souligné devant la presse à Kinshasa.
Nous, au niveau de la MONUSCO, nous regrettons cette mort car nous aurions bien aimé, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, que Paul Sadala alias Morgan soit traduit devant la justice pour les très nombreux crimes qu'il a commis à travers toute cette zone. Nous le regrettons d'autant plus que s'il avait été traduit devant la justice, cela nous aurait permis de comprendre pas mal de choses. Et aussi, cela nous aura permis de le juger et de le tenir pour responsable de tous ces crimes graves qu'il avait commis.
Mais quel a été le film des circonstances de la mort de Paul Sadala? Et la MONUSCO en avait-elle été témoin? Suivez tour à tour le colonel Félix Bass et Charles Bambara.
Si vous voulez avoir le film de la mort de Morgan, je tiens tout simplement à préciser que c'est une opération qui a été rondement menée depuis le début par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont sollicité la MONUSCO pour faciliter la reddition de Paul Sadala alias Morgan ainsi que 42 autres éléments de ce groupe armé criminel a semé beaucoup d'exactions contre les populations civiles de la région de Mambasa et de Epulu. Ce que nous pouvons vous dire là-dessus, c'est que Morgan a été acheminé auprès de la base opérationnelle de Komanda où des hélicoptères de la MONUSCO avaient déjà été rendus disponibles pour venir soutenir cette opération de reddition de Paul Sadala et de ses éléments. Quand nous avons reçu le corps de Morgan qui était pratiquement mort, que l'équipe médicale de la MONUSCO a confirmé le décès de Paul Sadala alias Morgan. Maintenant, ce qui s'est passé depuis Bandegaïdo, Kilimoa jusqu'à Komanda, je pense que en vous rapprochant des autorités FRDC, vous aurez de plus amples informations concernant ce sujet-là.
Je peux ajouter pour compléter ce que le colonel Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, a dit, c'est que une fois que le contact a été établi à Komanda et que l'équipe médicale de la MONUSCO qui était sur place a pris en charge le corps de Morgan, ils se sont rendus compte tout de suite qu'il était pratiquement mort. Selon les procédures médicales en place, qui sont standards d'ailleurs, l'équipe médicale de la MONUSCO a quand même tenté de réanimer le corps, mais force était de reconnaître que la mort était déjà intervenue, donc on a confirmé en fait en quelque sorte cette mort-là.
Pour le reste, la MONUSCO ne croit pas que la mort de Morgan va influer négativement sur la volonté d'autres groupes armés ou d'autres leaders à faire reddition pacifique. De toute manière, pour le colonel Félix Bass, l'engagement et la détermination des forces congolaises et de la MONUSCO sont sans équivoque. La pression militaire sera maintenue, moralité, tous les groupes armés n'ont d'autre choix que de se rendre, sinon ils le seront de force.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le PMM, parc marin des mangroves, le seul parc côtier de la RDC, sera plus viable dans 2 ans. C'est en tout cas l'objectif du projet gouvernemental lancé le 11 avril dernier. Un projet dans lequel est totalement impliquée la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Pour en savoir plus, nous recevons Serge Tissot, le représentant adjoint de la FAO RDC. Il répond ici aux questions d'Honoré Missengakalala.
Monsieur Serge Tissot, bonjour.
Bonjour.
La FAO est impliquée dans le projet PMM lancé le 11 avril dernier. Le représentant de votre organisation a d'ailleurs été personnellement présent à ce lancement. En quoi consiste ce projet, monsieur Serge ?
Le projet s'inscrit dans le programme forestier de protection de l'environnement de la FAO. Plus spécifiquement, le projet vise à contribuer à la gestion des mangroves, à l'atténuation des menaces sur ces mangroves, mais également à jeter les bases d'un projet de développement d'écotourisme. On travaille aussi pour préparer le site et les acteurs de ce projet pour avoir accès à des financements REP et ainsi assurer le financement sur une longue durée.
Alors, quels sont les objectifs de ce projet ?
Les objectifs de ce projet sont multiples. Il y a des objectifs purement techniques qui sont liés à la gestion des mangroves, mais il y a également des objectifs à plus long terme sur la gestion de l'espace communautaire dans ces zones-là, la gestion de la pêche, et la gestion de tout ce qui concerne les conditions de vie des communautés.
Est-ce qu'on peut connaître la hauteur du financement de ce projet ?
La FAO a investi 394 000 dollars dans ce projet, mais c'est un projet à caractère pilote. On espère par la suite obtenir des financements complémentaires pour développer le programme.
Pour développer le programme ou d'autres projets similaires ?
Disons que comme c'est un projet pilote, on espère pouvoir étendre la zone géographique de ce projet et également l'étendre en matière de durée.
Alors, Monsieur Serge, par rapport à ce projet, quel serait l'impact sur l'agriculture dans cette région de Moanda ou dans la province du Bas-Congo ?
L'impact sur l'agriculture est important en ce sens que on va améliorer la gestion du parc marin des mangroves, on va avoir un impact sur l'écosystème, on va avoir un impact sur les conditions de vie dans cette zone-là. Il faut savoir que tout ce programme s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. C'est un cadre qui vise à la protection de l'environnement et pour réaliser le projet, on va faire appel à plusieurs partenaires et on va signer des contrats pour pouvoir mettre en œuvre différentes activités. Parmi les activités, je citerai la sensibilisation des membres des associations et des communautés sur la pêche artisanale, sur la protection des espèces locales. Et dans ce cadre-là, on parlera plus spécifiquement de tout ce qui est lié aux tortues marines, au renforcement du suivi de la saison des ponts. On va également avoir un inventaire de la faune et de la flore au niveau du parc marin pour connaître un peu l'état actuel et pouvoir mesurer l'évolution. Et on va avoir également des activités liées au reboisement de la zone, notamment avec des boisements à caractère énergétique pour éviter que les populations coupent les mangroves pour se chauffer.
Qu'est-ce que l'agriculteur de cette région-là peut attendre de ce projet concrètement ?
Disons qu'au niveau de l'agriculture, on va avoir une approche participative et on va avoir un peu des formations qui vont être liées aux activités du programme, mais ce n'est pas un programme spécifiquement agricole. Il faut voir ça dans des activités agricoles qui améliorent la protection de l'environnement, mais ce n'est pas un but spécifique d'augmenter la production agricole dans la zone.
Les communautés riveraines sont impliquées dans ce projet ?
Oui, les communautés riveraines sont fortement impliquées dans ce projet. On a choisi une approche participative de manière à ce que les communautés participent à la gestion du parc marin. C'est très important de les avoir inscrits dans la participation dès le départ, de manière à pouvoir définir avec eux des règles et que ces règles soient correctement appropriées par les populations.
Pour cela, on s'entoure également de conseils d'acteurs locaux. Je soulignerai ici le rôle important de l'UICN. C'est une ONG internationale qui est partenaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui va jouer un rôle très important dans la coordination de toutes ces activités avec les communautés. C'est un rôle clé d'avoir tout le monde autour de la table.
Pourquoi la FAO s'intéresse à ce genre de projet ?
Bon, la FAO a un programme important en matière de protection de l'environnement. Ça s'inscrit dans le cadre stratégique de la FAO et plus particulièrement dans l'objectif stratégique numéro 2. La FAO a revu l'ensemble de son programme et s'inscrit maintenant dans 5 objectifs stratégiques. L'objectif stratégique numéro 2, c'est rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productive et plus durable. Au niveau régional, on a également un objectif qui vise à la gestion durable des ressources naturelles. De quelle manière est-ce que ça se traduit au niveau de la RDC ? Outre le projet Mangrove, nous avons également un projet de support au système de surveillance des forêts qui est en cours de réalisation. C'est un projet qui rentre dans le cadre de l'initiative UNREP, mais on vient également de terminer des projets qui avaient trait à la foresterie communautaire et à l'agroforesterie.
Alors, Monsieur Sertissot, pour terminer, est-ce que la FAO a un message adressé au gouvernement et à la population bénéficiaire de ce projet ?
Je crois que le succès de ce projet dépendra de la participation de tous les acteurs. Je citerai en premier lieu, bien entendu, le gouvernement et les partenaires qui ont un rôle clé à jouer pour la mise en œuvre du projet. Mais les principaux acteurs resteront les communautés bénéficiaires qui devront s'approprier un nouveau mode de gestion des mangroves. Et ça permettra d'avoir une vue à long terme sur la gestion de ce type d'écosystème et que l'on puisse encore en faire profiter les générations à venir.
Monsieur Serge Tissot, merci.
Ouvrons cette page de nouvelles avec le volet protection de l'enfant. Entre le 8 et le 15 avril, 26 enfants âgés de 13 à 17 ans, dont 2 filles, ont été libérés des groupes armés au Katanga, en province orientale et dans les 2 Kivu. Ces enfants ont été utilisés comme combattants, cuisiniers, escortes, travailleurs domestiques, porteurs et babysitters au sein des groupes armés. Ils sont maintenant engagés dans le processus de réunification familiale et la MONUSCO salue la collaboration avec l'armée congolaise à séparer les enfants qui sont dans les groupes armés dans le cadre du plan DDR3. Volet développement, 30 avocats du barreau de Kindu, dont 4 femmes formées à l'assistance judiciaire des personnes poursuivies en matière de crimes internationaux graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Cette session de formation est la 4e du genre, appuyée par le PNUD et l'Union européenne. Les sessions précédentes ont eu lieu à Kisangani, à Lubumbashi et à Goma. Restant en plus, 31 détenus irréguliers de la prison centrale de Bunia en Ituri libérés la semaine dernière. Une libération intervenue à la suite d'une mission du Conseil supérieur de la magistrature et de l'inspectorat général des services judiciaires. Et cette mission a été réalisée avec l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Autre nouvelle, selon le bulletin d'information humanitaire de Ocha Katanga du 16 avril dernier, près de 4000 déplacés venus de Mississi en territoire de Fizi, nous sommes donc au sud Kivu, seraient installés depuis le 11 avril dans le village de Lambo Katenga, environ 200 km de Kalemi. D'autres déplacés en provenance de la même province et dont le nombre n'est pas encore connu, selon la même source, se trouveraient aussi dans les villages de Moleka et Mapanda. Ces populations auraient fui les affrontements du 7 au 8 avril entre les Maïmaï Yakutumba et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la localité de Missi.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La situation des réfugiés centrafricains dans les pays limitrophes préoccupe le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Abou Moussa a bouclé la semaine dernière à Kinshasa une mission qu'il a conduite au Tchad, au Cameroun et dans les 2 Congo. Objectif, cerner les défis que pose la situation de ces réfugiés et apprécier les besoins des gouvernements et des acteurs concernés afin de développer une réponse conséquente sur le plan humanitaire, sécuritaire et politique. Abou Moussa aborde dans un entretien les questions liées liées à la crise centrafricaine, les stratégies de la région pour une prise en charge adéquate des réfugiés centrafricains, les conséquences de la présence de ces réfugiés dans les pays limitrophes, ainsi que la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'envoi de 12 000 casques bleus au Centrafrique. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Abou Moussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en mission en RDC. Vous avez été d'abord à Brazzaville, au Cameroun et bien sûr au Tchad. Est-ce que nous pouvons connaître l'objet de votre visite, monsieur Moussa?
Effectivement, nous étions au Tchad, nous étions au Cameroun, Congo, Brazza et aujourd'hui ici à Kinshasa. Nous avons entamé cette mission pour une raison essentielle. Vous vous rappelez que depuis qu'il y a eu la crise en RCA, le monde entier s'est mobilisé pour la recherche de paix et la sécurité pour ce pays et pour le peuple. Mais il y a un autre aspect que nous n'avons pas suffisamment nous penché dessus, c'est la question de conséquences de cette crise dans les pays limitrophes tels que le Tchad, le Cameroun et les deux Congos. Et il est maintenant temps que nous nous penchions dessus, surtout sur la base des informations que nous recevons de nos collègues et des humanitaires sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, il est question maintenant de faire une évaluation. Le secrétaire général s'inquiète que nous risquons d'oublier les pays voisins qui ont subi les mêmes conséquences, que ce soit au niveau humanitaire, avec beaucoup de réfugiés qui sont entrés dans tous ces pays, sécuritaire également, et aussi toute la question économique, parce que tous ces pays financent des projets de soutien à des populations, que ce soit des réfugiés et leurs citoyens qui reviennent de ces pays-là.
C'est donc au Tchad, il y aurait 140 000 réfugiés au Cameroun, 18 000 réfugiés centrafricains en RDC, près de 8 000 en République du Congo, Congo-Brazzaville. Quelles sont les stratégies sur le plan régional de prise en charge de ces réfugiés, M. Moussa?
La stratégie de prise en charge commence d'abord avec les pays concernés qui appliquent ce que nous appelons terre d'asile, qui ouvrent les frontières, que les gens rentrent et trouvent où dormir et avoir la protection. Mais au-delà, les agences humanitaires, les ONG également, formulent le projet pour soutenir le gouvernement et les populations concernées, que ce soit ici ou ailleurs. Il est important de répondre à ces exigences humanitaires. Bah, il est évident que les agences humanitaires n'ont pas prévu que la crise allait durer et il y a le problème du financement de leurs activités.
Et alors, ces problèmes, comment il faut les résoudre?
Bah, il faut continuer à sensibiliser les donateurs, le monde entier, et aussi remercier les populations qui ont accueilli ces réfugiés et les personnes déplacées, parce que une fois arrivés, ils partagent les mêmes nourritures, les mêmes maisons, les mêmes infrastructures comme écoles, cliniques, et ainsi de suite.
Oui, Monsieur Moussa, une autre crainte, c'est le trafic des armes dans la région, avec ces flux de réfugiés centrafricains. Que faire pour empêcher ces trafics?
Ça, il faut que nous travaillions avec le gouvernement. Justement, parmi les conséquences que nous avons constatées lors de nos déplacements antérieurs, c'est l'arrivée des armes illicites dans tous ces pays. Voilà pourquoi il est important d'aider les gouvernements, de les soutenir, parce que cette responsabilité incombe d'abord au gouvernement, qui évidemment n'ont pas suffisamment de moyens. Au Cameroun, par exemple, ils ont déployé les militaires à la frontière, et ça coûte de l'argent.
Qui doit aider ces gouvernements?
À nous tous, que ce soit les donateurs, chacun a une part de responsabilité pour soutenir les actions du gouvernement.
Monsieur Moussa, vous avez déclaré à la Voix de l'Amérique que les pays de l'Afrique centrale doivent s'unir pour trouver une réponse globale à la crise en Centrafrique. Qu'entendez-vous par une réponse globale à la crise?
Moi, je pense que je peux facilement illustrer ce que je viens de dire et ce que vous venez de citer par la réponse des pays de la CEAC lorsque la crise s'est éclatée. Ils sont réunis, ils ont mobilisé des ressources pour soutenir les actions en RCA. Voilà ce que je considère comme une action globale, que ce soit du point de vue humanitaire, militaire, sécuritaire, il faut que tout le monde s'engage.
Une question d'actualité, M. Moussa. Le Conseil de sécurité vient de voter une résolution autorisant l'envoi des 12 000 casques bleus en Centrafrique. Cette résolution intervient au moment où vous êtes en mission à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons connaître avant tout les chronogrammes de ce déploiement des casques bleus?
D'abord, je pense qu'il faut saluer cette décision. Une décision qui a été réclamée pratiquement par tout le monde, tous les États concernés, la population, la RCA. Deuxième, maintenant que la résolution est votée, notre CIA a déjà commencé à contacter les pays contributeurs des troupes. Certainement, ces troupes-là qui sont sur place vont être, il y aura une évaluation et une décision qui sera prise pour s'assurer qu'on ne commence pas à zéro, qu'il faut utiliser les troupes qui sont déjà sur place pour démarrer et puis complémenter avec d'autres troupes qui vont venir d'ailleurs. Et avant d'arriver là, parce que la date de démarrage c'est le 15 septembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avant le 15 septembre? Cela est contenu dans la déclaration du secrétaire général hier, comme quoi, en attendant, il faut soutenir les troupes qui sont sur place, surtout les troupes MISCA.
De l'Union africaine.
L'Union africaine. Selon les informations provenant de notre siège, ces troupes Union africaine seront désormais épaulées du point de vue logistique pour commencer. Et en ce moment, il y a une mission qui est partie à 10 et qui va être aussi en RCA pour commencer à planifier l'arrivée de ces troupes, le passage plutôt de témoins entre la MISCA et les troupes onusiennes.
Est-ce que ce déploiement peut aider aussi au retour de réfugiés centrafricains qui sont éparpillés dans les différents pays limitrophes?
L'action militaire n'est qu'une partie des solutions, mais il y a aussi l'aspect politique. Et à ce titre, je dirais qu'il est important aussi que les centrafricains s'engagent aussi, parce qu'on peut mobiliser autant de troupes, autant de sacs de farine, mais si les politiciens ne les engagent pas également, ça va être difficile. Donc, les Centrafricains doivent se rallier à cette idée positive que la paix revienne et que les réfugiés puissent rentrer chez eux, les enfants puissent retourner à l'école et que la vie économique redémarre.
Une dernière question, M. Moussa. Voici 3 ans que le secrétaire général des Nations Unies vous a nommé comme son représentant spécial pour l'Afrique centrale. Est-ce que nous pouvons avoir un petit bilan de votre action à ce poste?
Il y a 3 ans, le bureau du MECA a été créé. À zéro, nous avons commencé à mettre en place toute la structure. Et donc, nous avons mené dès au départ des actions. C'est d'abord mettre le bureau en place, l'infrastructure nécessaire, et puis commencer à travailler avec le gouvernement de la sous-région. Nous avons défini un certain nombre de projets.
Lesquels, par exemple?
Il y a les projets qui ont été dictés par le Conseil de sécurité. Il y a d'autres que nous avons constaté en arrivant à l'intérieur de notre mandat qu'il fallait aussi gérer.
Monsieur Moussa, nous vous remercions.
Place à notre nouvelle de province à présent, un plan d'action régional au profit de quelques 60 000 réfugiés centrafricains de la RDC a été mis en place. Une initiative des Nations Unies lancée le mercredi 16 avril. Objectif, collecter un peu plus de 70 millions de dollars américains afin de répondre efficacement aux urgences humanitaires de ces réfugiés concentrés dans les provinces de l'Équateur et la province orientale. L'annonce de ce plan a été faite lundi par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale en présence des autorités congolaises et celle de la MONUSCO. Le reportage est signé Dominique Wolombi Mangampanga. Il est rendu par Henri Lobondo Bokelou.
Depuis plus d'un an, la République démocratique du Congo, qui partage une frontière de 1557 kilomètres avec la République centrafricaine, fait face à l'arrivée massive des réfugiés centrafricains qui fuient les violences dans leur pays. La prise en charge de ces réfugiés centrafricains nécessite la mobilisation des moyens pour aider les agences onusiennes et les organisations non gouvernementales qui interviennent sur le terrain. Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, en visite en République démocratique du Congo, avait estimé lundi dernier à Kinshasa que la même assistance devrait être accordée accordée aussi au gouvernement congolais qui les accueille. Au-delà des problèmes socio-économiques occasionnés par la crise centrafricaine, l'impact sécuritaire en RDC de la guerre en République centrafricaine a dominé les échanges entre les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et ses interlocuteurs, notamment pour empêcher que les milices armées, en particulier les anti-Balaka, ne pénètrent en RDC pour commettre des exactions sur les réfugiés de confession musulmane. Abou Moussa, qui s'est déjà rendu au Tchad, au Cameroun et au Congo-Brazzaville pour la même mission, était accompagné des représentants de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en RCA et du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Mazola Catherine. Je suis mariée à Monsieur Mayangi Adolphe et je suis mère de 3 enfants, un garçon et 2 jolies petites filles. Parlant de ma formation, j'ai étudié à l'école primaire lycée Twendele. Ensuite, j'ai eu mon diplôme d'état au complexe scolaire Le Bercail. Quant à l'université, j'ai commencé à Kinshasa, à l'université protestante au Congo, en droit, et j'ai fini à l'UNILU. Déjà, j'ai quitté la famille pour aller étudier à Kinshasa, mais bon, ça ne me plaisait plus le milieu, donc j'ai préféré revenir auprès de ma famille. J'ai quitté Lubumbashi pour aller étudier à l'université protestante, parce qu'en fait, à un moment donné, on se disait que la formation dans les universités privées était bien meilleure que celle qui était donnée dans nos universités, notamment l'université de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani. Mais j'ai trouvé que c'était exactement la même chose, sauf que j'étais loin de mes parents et de la famille. Au sein de cette agence, la MONUSCO, je suis au département de la sûreté et de la sécurité, où j'ai plusieurs tâches, je l'avoue. Je suis à la MONUSCO depuis septembre 2005. Avant que je ne commence à la MONUSCO, j'étais dans un cabinet d'avocat. Le destin en a voulu autrement, je me suis retrouvée à faire ce que je fais actuellement. Parlant de mon temps libre, c'est assez difficile de combiner en même temps la vie de femme au foyer et la vie de femme travailleuse. Je jure que pour le week-end, ça passe assez vite. Hein. Aussitôt que le week-end est là, vous acclamez et puis c'est déjà demain lundi. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être par rapport aux connaissances, aux amis et à la famille. J'ai le temps à consacrer à mes enfants, à mon mari, mais vraiment, c'est difficile pour le reste de la communauté, les amis, les connaissances. On peut projeter d'aller rendre visite à quelqu'un, mais le week-end est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de le faire et on le projette pour la semaine prochaine. Parlant de mes préférences, en commençant par la musique, je dirais que j'aime toute musique douce déjà, quel que soit le genre, mais que ce soit une musique douce et reposante. Il y en a plusieurs. On peut prendre déjà Céline Dion, j'aime bien. Parlant du sport que j'aime, je parlerai bien du basket. À un moment donné, j'aimais bien le handball, mais bon, c'est passé, c'est beaucoup plus le basket. Dans mon école, non, j'ai pas participé à une équipe ou à un groupe donné, non. En ce qui concerne mes goûts culinaires, je dirais que j'aime bien manger à la congolaise. Makemba, pondu, viande, du riz, foufou, puisqu'on est congolaise. Après l'agence, il y a 2 options qui me tentent. Soit c'est rentrer dans un cabinet d'avocat, reprendre où j'ai laissé. La seconde, c'est peut-être embrasser une carrière militaire, parce qu'il faut dire que c'est ce que j'ai toujours aimé. J'aime bien femme FRDC, mais dans sa section droit. En ce qui concerne cette passion pour tout ce qui est métier sous l'uniforme, je pense que ça remonte à loin. C'est peut-être pas un hasard si je me suis retrouvée dans le département de la sûreté et de la sécurité. Ça a un côté un peu militaire, uniforme et tout ça, mais mon souhait le plus ardent a toujours été de rentrer servir sous le drapeau.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
La question a été posée à Goma, la réponse donnée à Kinshasa. La question était donc celle d'un journaliste de la RTNC Goma. Et la réponse est de Sylvestre Ntumba Mudingai de Otcha. C'était mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies.
Le gouverneur du Nord Kivu venait de déclarer dans la conférence de presse qu'il prendrait une option de fermeture des camps pour éviter qu'il y ait assez de déplacés dans des camps. Quelles sont les conditions humanitaires qui peuvent être imposées avant la fermeture d'un camp de déplacés à pareil cas?
Merci pour la question. Pour fermer un camp, il faut organiser le retour des personnes qui sont dans ce camp-là. Et ce retour ne peut s'organiser que sur une base volontaire. Donc, si les conditions de sécurité sont remplies dans leur milieu de retour, donc ces personnes-là, on peut commencer à penser à organiser leur retour. Et le retour se fait toujours accompagné d'un pack qui permet aux personnes retournées de pouvoir tenir le temps de se réorganiser et de retrouver leurs activités normales.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux rendez-vous à inscrire dans vos carnets. Du 22 au 28 avril sera organisée la semaine mondiale de la vaccination autour du thème vaccination, responsabilité partagée. Le deuxième rendez-vous, c'est le 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'équipe de Maguen se mobilise pour couvrir ces deux activités. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je suis Mila Kimwini. J'ai eu un réel plaisir de vous l'avoir présenté avec l'assistance technique d'Héritier Sidiakala du côté de la régie. Nicole Ngaka était à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination. Honoré Missenga au reportage. Émission à réécouter à tout moment sur notre site internet www.radiocapi.net. Envoyez-nous vos questions par SMS ou appelez-nous à notre numéro 082 30 76 630. 082 30 76 630. Vous pouvez aussi nous contacter en nous écrivant un commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission ou nous écrire sur notre adresse mail magun@radiocapi.net. C'était un plaisir d'être des vôtres. À dimanche prochain. Entre-temps, je vous souhaite une excellente journée dominicale à tous.